Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la 14e saison d'Invino BFM. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Pour ce numéro 609, nous sommes en public et délocalisés au bar à vin restaurant Nicolas, place de la Madeleine, avec comme d'habitude un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Le magazine en Magnum, nous en parlerons. Le magazine Michel Bétane et Thierry de Sauve, Thierry est avec nous. Les vins américains version Napa Valley, Sonoma. Le groupe Taïwan, San Antonio côté Bacchus, la maturité du raisin, l'Alsace Cato protestante, on verra bien, et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux, en compagnie de Philippe Bidalon, Philippe Breno, Philippe Cobold et Philippe Forbrack. Il y en a des quatre qui s'appellent pas Philippe. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Philippe.
Les vacances, David, c'était bien. Alors vous étiez où, David, en vacances?
Gascogne, comme souvent, comme toujours, presque. Et Gascogne entre Marciac et Bâtiment, dans le Gers. Voilà.
Et vous êtes régalé. Et vous, Philippe Bidalon, vous étiez où?
Sur la Côte d'Azur.
Ouais, d'où votre teint allé, quoi, c'est ça, quoi.
D'où mon teint allé.
Bah, exactement. Et puis, Philippe Bruno, on en parlera tout à l'heure. Et Philippe Orbach, vous?
Moi, j'étais une part. Je vous en parle aussi aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine aussi, j'ai fait un tour en Californie. Et puis, j'ai terminé mes vacances du côté de Tahiti.
Oui, il n'y a pas le ça des vacances, lui.
Enfin, ça voilà. Va. Il y a pire dans la vie, Philippe Orbach.
En plus, j'allais pour travailler. Mais de toute façon, je travaille que pour
travailler musée, donc, à Tahiti.
Il n'y a pas de problème.
Et au bout de 609 émissions, vous nous racontez toujours des bêtises, hein. Vous n'avez pas honte?
Mais c'est d'autant plus difficile de travailler à Tahiti.
Bon. Alors, Philippe Bidalon, dans la journée du vin, on commence par Reims. Qu'est-ce qui se passe à Reims?
Eh bien, Reims, il se passe le prochain dîner du Wine and Business Club Reims, qui se déroulera le mardi 13 septembre au domaine Les Crayères. Au menu, comme d'habitude, économie, gastronomie et grand cru. Plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Le Grenache D, ça existe?
Oui, ça, en tout cas, ça existe le 16 septembre. C'est un rendez-vous international consacré au cépage Grenache et composé de multiples événements locaux organisés par des cavistes, des restaurateurs ou des domaines viticoles. Par exemple, Wine Safari organise une visite dans le vignoble à la découverte des grenaches des crus de Vallée du Rhône, ou encore la cave à Féfé à Collioure propose une dégustation de vin sec en appellation Collioure et de vin doux naturel en appellation Banyuls. La page facebook.com/grenache-day recense les événements et est mise à jour quotidiennement.
Allez, on change de cépage, direction le Beaujolais.
Alors, dans le Beaujolais, là, on pourra assister à la troisième édition du festival Vendange Musicale qui aura lieu les vendredis 16 et samedi 17 septembre à Charnay, dans le sud du Beaujolais. Le vendredi soir, Les Innocents et Charlie Tango, notamment, seront sur scène. Le samedi, Black Lily, Marion LG feront danser les foules. L'idée est de réunir tous les publics autour d'une programmation variée et éclectique et de faire connaître ce terroir et ce territoire du Beaujolais des pierres dorées. La date n'a pas été retenue par hasard. Septembre est une période pauvre en événements culturels et importante pour le Beaujolais puisque c'est le temps des vendanges. De 18 à 54 euros, réservation en ligne. Les vendanges pluriel, musical, pluriel, tout attaché, point net.
Et vous, David Cobol, on vous a aperçu du côté de Barcillac pour le jazz, là, au mois d'août. Vous confirmez ou pas?
Ah oui.
Les espions de Invino BFM. Bah,
ça, c'était pendant le mois d'août. C'est le festival Jazz in Marcillac qui a lieu depuis 25 ans maintenant, qui fait vivre toute une région, non seulement la petite ville de Marcillac, mais toute la région.
Qui est quand même petite, hein, pour un grand
ouais,
festival.
Mais hein. Quand on voit que ce petit bled est capable d'attirer les plus grandes vedettes de jazz du monde, et pendant plus de deux semaines maintenant, avec des concerts tous les soirs et toute la journée gratuite, le soir payant, c'est assez formidable comme réussite, et c'est une réussite exceptionnelle qu'on doit au directeur de l'école de Marciac, un fanatique de jazz, et qui a monté ça.
Ça fait 30 ans, c'est ça?
Ça fait 25 ans, ouais.
25 ouais, ans, quoi. Et en partenariat avec la cave de Plémont, des très bons vins également.
Les caves de Plémont qui sponsorent dès le départ, qui a un stand sur la place et qui est fidèle. C'est les vins de la région, Saint-Mont.
Allez, il faut les encourager, c'est super ce qu'il faut.
Et Côte de Gascogne.
On quitte Marcillac pour Cheverny, Philippe Bidalon.
Alors bien sûr, donc, comme on le disait, le mois de septembre c'est celui des fêtes des vendanges. Donc le 10 septembre, il y en a une à Cheverny, en Touraine. Précision sur fêtes des vendanges, tout attaché, .net. Les 24 et 25, à Saint-Lambert-du-Latès, cette fois c'est en Anjou. Détails sur le site musée-ving-vin-anjou.com.
Il y a beaucoup de tirés, hein.
Ça fait beaucoup de tirés.
Ça tire un peu, hein.
Ça tire.
De tous les côtés.
Autre fête à Banyuls, dans le Roussillon du 5 au 9
Banyuls
octobre.
Banyuls-sur-mer, comme vous
voilà. Et bien sûr, Banyuls-sur-mer.com. N'hésitez pas à consulter les sites des appellations proches de chez vous pour connaître les dates des fêtes qu'elles proposent. Il y en a beaucoup.
Merci beaucoup. Puis bien, Philippe Orbach, 1965, c'est une bonne année ou pas?
C'est une année tirée, bouchée d'ailleurs.
Terrible.
Voilà. Et donc, 65, c'est une année. Il faut bien trouver quelque chose à dire parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur 1965. C'est juste une catastrophe. Je pense que c'est à partir de ces plus mauvais millésimes un peu de l'histoire, que ce soit dans le Bordelais ou dans les autres régions. Dans le Bordelais, il y a beaucoup qui n'ont pas osé même mettre en bouteille. Alors, ils n'ont pas fait du tirer bouché, ils ont mis directement du vrac. Pour ceux qui en ont fait, donc non,
si
il y a
je
pas.
Si je puis me permettre, il y en a qui ont osé.
Terrible.
Et c'est le seul millésime de Lafitte, par exemple, qui ressemble à du rosé.
Voilà. En 65.
Exactement. J'en ai eu dans ma
donc,
cave, hélas.
Voilà. Ceux qui ont osé le regrettent, mais ils l'ont fait. En Bourgogne, il y a eu un déluge pendant les vendanges. Les cours d'eau, tout a débordé. Il n'y avait que les cuves qui débordaient pas parce que finalement il n'y avait pas grand chose à ramasser.
Bon, quelques pourritures grises, 65, etc. Philippe, là,
si vous en avez, oubliez-les. Oui, quelques personnalités néanmoins. Alors côté féminin, quand même, on est gâté. Stéphanie Moulaco, Christina Reali, Brooke Shield, Emmanuel Béart. Et côté garçon, on peut aller taquiner la raquette avec Guy Forget, par exemple, aller chanter avec Pascal Obispo, discuter politique avec François Baroin, ou regarder un film avec Brad Pitt.
Vous avez Xavier Cambi ou pas dans votre liste de people né en 65
Non seulement là, mais en plus on regardait.
Mais il est là. Oui. C'est le premier invité, Xavier Cambi, le fondateur et patron de Essentiel Management Conseil, également auteur du livre 48 clés pour un management durable. Bonjour Xavier.
Bonjour Alain.
Et vous, les vacances, c'était où alors?
Escapade en Avignon. Ensuite, j'ai randonné en Chartreuse et puis j'ai été me récompenser en Alsace.
Ah ben c'est ça.
Il y avait
du vin partout, donc vous êtes pas
à peu près. Bon. J'ai passé aussi beaucoup de temps chez moi à Annecy parce que j'avais besoin de ranger ma cave qui était remplie de bouteilles vides.
Ah, de bouteilles vides.
Et oui, c'est pour ça que je suis très heureux de participer à votre émission parce que.
Alors, vous êtes diplômé de l'ESCA d'Angers, doublé d'un troisième cycle de droit international et votre premier job c'était chez l'ancêtre de l'AMF, c'est ça? Vous étiez inspecteur?
Oui, j'étais inspecteur sur les marchés financiers. Alors, c'était pas très très fun, mais c'était un métier utile. C'était tout à l'origine de la commission des opérations de bourse, en effet, devenue autorité des marchés financiers.
Et c'est en 2013 que vous avez créé votre boîte, votre société, qu'est-ce qu'elle a comme métier alors?
Alors, c'est un métier particulier, il s'agit de faire du conseil en management. Alors, c'est un petit peu basique, tout le monde le dit, mais notre philosophie, notre volonté est d'inventer un management différent pour notamment permettre une performance décuplée en entreprise effectivement, on affronte à peu près tous les jours la souffrance au travail qui est le premier facteur de non-performance.
Vous avez écrit un livre, voilà, les 48 clés pour un management durable. Alors, allez, peut-être pas les 48, mais les 3 points clés, par exemple.
Les 3 premières clés, on en parle beaucoup, c'est un peu galvaudé, mais la première chose, c'est une bienveillance et en commençant par soi-même. J'ai été chasseur de tête pendant 15 ans et c'était un parcours initiatique puisque ça m'a amené dans nombreuses régions viticoles et notamment en Afrique du Sud. Et j'ai pu rencontrer plus de 8500 dirigeants pour les évaluer, les accompagner, les aider. Et j'ai remarqué que ces personnes avec les meilleures des bonnes intentions n'arrivaient pas à faire le bien qu'ils avaient envie de faire parce que les gens ne sont pas malveillants majoritairement et faisaient souvent à eux-mêmes et aux autres le mal qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et la première chose que nous essayons de remettre en place, c'est de dire, respectez-vous vous-même, respectez vos propres valeurs et ne managez pas comme on enseigne dans les bouquins ou dans les universités, mais managez comme vous êtes. Donc je dirais, c'est la première des clés. La deuxième des clés, c'est les fonder sur une question que je pose souvent aux dirigeants que j'accompagne. Aimeriez-vous entendre ce que vous êtes en train de me dire? C'est-à-dire paramétrer votre discours, non pas parce que vous avez besoin de le dire, ça c'est l'expression, mais sur l'impact que vous voulez obtenir chez l'autre.
Et ça, ils comprennent un peu les dirigeants ou pas?
Alors, certains sont très vifs, d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps.
Et alors, troisième clé qu'on peut lire dans ce livre, les 48 clés pour le management durable?
La troisième clé, ce serait la capacité à se fédérer autour de soi des gens. C'est-à-dire, nous assistons souvent, alors majoritairement dans les conseils de direction, dans le comité de direction, nous avons des gens qui sont dans une stratégie que j'appelle 14-18, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une expertise, mais qui sont incapables de travailler avec les autres. C'est la guerre de tranchées recommencée, chacun sur son périmètre, et n'accepte pas que l'autre puisse venir intervenir. Alors, on essaie de transformer cette intelligence que nous appelons protectrice en intelligence collaborative.
Oh, c'est joli, ça.
Oui, c'est moi qui l'ai inventé. Ça prend un peu de temps, là aussi.
Tout à l'heure, on va recevoir un psychiatre, on va en parler avec lui, parce qu'à mon avis, il y a des choses à dire. Vos clients, c'est qui? Donc, vous accompagnez uniquement des dirigeants, Xavier?
Alors, notre objectif, c'est vraiment de lutter, militer autant qu'on peut contre la souffrance au travail. Donc, il y a deux types d'interventions. Soit des dirigeants sont saisis de notre intention supérieure, qui est en effet de démultiplier la performance, tout en essayant d'éradiquer tous les symptômes de souffrance au travail. Alors là, on intervient au niveau des comités de direction, en effet. C'est ce que je fais actuellement à Paris. Là, je vais former demain 8 dirigeants. Il y en a même qui viennent de Hong Kong.
C'est bien de travailler le week-end, c'est bien.
Oui, alors ça m'arrive aussi. Mais il y a une deuxième modalité d'intervention. Alors plus on monte haut, plus ça infuse ensuite. Plus nos méthodes sont faciles, par osmose ou par contagion, par capillarité, elles descendent jusqu'en bas. Mais nous avons une deuxième modalité d'intervention, c'est souvent en pompier. On va soigner des filiales, des pôles qui particulièrement souffrent.
Elles souffrent, quoi. Vous avez également créé la clinique du burn-out.
Oui.
Vous devez être content, Benoît Hamon.
Alors, c'est une activité que je ne pratique qu'en Suisse, parce qu'en France, je ne voudrais pas apparaître comme étant un praticien d'une médecine parallèle ou à caractère illégal. En fait, nous avons établi un protocole en sortant certains des outils de nos ateliers qui permettent de ramener des gens qui sont en burn-out, et là c'est la médecine qui le déclare, donc c'est vraiment un vrai burn-out, et c'est un accident psychique réel qui n'est pas lié à des facteurs personnels, mais qui est toujours lié à des facteurs professionnels, même si ça peut contaminer toute une vie familiale ou toute une vie personnelle. On arrive à les sortir. Alors le record absolu, c'est un vrai directeur général en France, c'est son patron Washington qui m'a appelé en disant voilà, il est en train de dysfonctionner, qu'est-ce que tu peux faire. Il était en burn-in, c'est-à-dire la phase précurseur, et ensuite il passait en burn-out, et c'est là seulement qu'il a pu m'appeler, et en 5 semaines il est sorti de son burn-out.
David Cobol, vous êtes Inuit, vous.
Est-ce qu'on peut appliquer votre méthode, par exemple, si Thierry de Sauve ici présent,
on va recevoir tout à l'heure,
Philippe Forbrack, si on a une journée très dure, on goûte beaucoup, beaucoup de mauvais vin et on souffre d'un burn-out de nos
palais,
est-ce que vous pouvez nous soigner d'une manière?
Alors, je ne pense pas que ce soit un burn-out, que ce soit pas un vrai burn-out. Mais je peux vous proposer quelques exercices qui vont vous permettre de retrouver tout votre potentiel.
Boire de l'eau, par exemple, David.
Ça pourrait être un truc. Oui.
Alors, c'est effrayant. Vous constatez qu'il y a à peu près 60-70% des Français qui ne sont pas contents d'aller bosser?
C'est pire que ça. Alors, c'est déclaratif, et c'est 3 sondages convergents, dont certains faits par des sociétés internationales tout à fait sérieuses, où les Français, lorsqu'on les interroge, 66% des Français salariés déclarent venir au travail avec, à un moment donné, une boule au ventre.
C'est dingue.
C'est effrayant. Mmh. Alors, je travaille beaucoup en Suisse aussi pour des sociétés internationales. Je pense que les Suisses le disent beaucoup moins, mais sont à peu près aussi à 2/3 de gens.
À équivalent, vous dites.
Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec la situation.
Un taux de suicide en Suisse qui est assez important, non?
Ah ben, les Suisses sont les champions.
C'est trop cool chez eux, en fait.
Du monde du suicide à caractère émotionnel. Hein. Ouais. Donc, c'est pas une dépression nerveuse, c'est quelque chose d'accidentel. Et puis, ce sont les champions du monde aussi du crime passionnel.
Du crime passionnel.
On pourrait croire que c'est les Italiens, les Français, les Espagnols. Ah ben non, ce sont des amis
suicides. Alors, vous vivez en Suisse, vous adorez le vin, vous écoutez une Vino BFM chaque samedi à 13h, dimanche à 16h, oui. Ne changez rien, c'est parfait. Côté Bordeaux, vous préférez les Bordeaux ou les Bourgognes?
À Bourgogne.
À Bourgogne, d'accord. Et les vins suisses, vous connaissez un peu les vins suisses?
Alors, très peu, mais je les découvre avec fascination. C'est assez difficile lorsqu'on est à l'étranger d'acheter du vin suisse, parce que les Suisses n'exportent pas leur vin. Ils le gardent pour eux. Alors, quand on voit.
Il est très bon, mais il est cher quand même.
Bah oui, c'est vrai.
Bah, comme tout en Suisse, tout est très bon, mais tout est très cher.
Les coûts de revient sont relativement importants, du coup.
Bon, Xavier, pour terminer, il paraît que vous êtes champion du monde du poulet banane à la sauce tomate.
Alors, c'est une recette familiale trafiquée par moi. En fait, j'adore faire la cuisine, mais je n'ai pas de recette. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de prendre des choses, là, dans le réfrigérateur, elles sont en cours de péremption, et c'est de créer des recettes. J'aime ça plus que de prendre un livre pour faire des recettes.
Qu'est-ce qu'on boit comme vin, Philippe Forbrack, avec un poulet banane sauce tomate, là?
Ouais.
Même s'il est très bien préparé par Xavier.
Oui, un vin solaire, un peu original, pourquoi pas un rosé, d'ailleurs.
Un vin Tahiti, peut-être.
Oui, ça peut. Ça manque un peu de corps, peut-être. Mais
je le sers souvent avec des vins blancs sud-africains.
Oui, ça fonctionne.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Xavier. Quand même, vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur ce que vous faites, d'ailleurs.
Ouais, www.esman.ch.
Une Vino BFM accueille maintenant un nouvel invité, Thierry Dessau. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors racontez-nous cette belle aventure aussi entrepreneuriale que vous avez débutée il y a quelques années avec votre complice Michel Bétane. Aujourd'hui dans le groupe, vous avez quoi? Vous avez un guide, un magazine, un salon, une nouvelle appli, c'est génial.
Et on travaille avec beaucoup de journaux dans le monde entier et on a une petite filiale en Chine où il faut être extrêmement bienveillant et appliquer vos recettes à la règle, monsieur Corby.
Mais c'est un changement de métier, Thierry, de passer du statut de journaliste à celui d'entrepreneur, c'était pas gagné quand même.
Non, c'était pas gagné, mais c'était une envie. Vous savez, je crois que à la fois le vin et nos métiers des médias ont vécu une vraie révolution au début des années 2000. Pour les médias, c'est évidemment la révolution digitale. Pour le vin aussi, d'ailleurs. Et pour le vin, c'est le changement de consommateur. Aujourd'hui, le vin, c'est devenu presque un produit culturel. La preuve, on fait des émissions de radio dessus.
Et
qui intéresse beaucoup de gens, des femmes, des jeunes. Moi, je me souviens, et on se souvient tous ici, parce qu'on a un certain âge, il y a 15 ans, toutes les institutions du vin nous disaient « c'est terrible, le monde du vin vieillit, les consommateurs vieillissent, ce sont des hommes de plus de 50 ans, ils vont un jour disparaître, et après, plus personne boira du vin ». ça s'est révélé totalement faux. Il y a beaucoup de jeunes, mes filles sont des fans de vin, bon, elles sont peut-être nées un peu dedans, mais il y a plein de gens qui s'intéressent au vin. Et nous, on voulait fournir de l'information, c'est notre métier, de goûter des vins, de conseiller. On a toujours besoin de conseils quand on a envie d'apprécier le vin, de fournir ces conseils, mais à tout type de public et au moment où il a besoin du conseil. C'est pour ça que notre dernier produit, qui est donc l'appli Grand Testing, c'est presque un aboutissement, parce que là, c'est vraiment lui fournir ce conseil au moment
le plus angoissant. Alors le principe, c'est quoi? C'est je vois dans un vin, rayon, dans magasin. Est-ce qu'il est bien, pas bien? On va sur l'appli, comment ça fonctionne?
Ben, l'appli, vous, une fois que vous l'avez téléchargé, on commence avec les foires au vin. On va continuer, on va tout l'ensemble de nos dégustations au quotidien, vont nourrir cette appli. Mais là, il y a 4000 vins qui sont 4000 vins présentés dans les foires au vin des différentes enseignes de grande distribution. Soit vous ne savez pas ce que vous voulez, ben vous tapez l'enseigne dans le menu détaillé. Je veux un rouge à tel prix, avec une bonne note de préférence, etc. Et ça va vous faire un entonnoir qui va vous sortir une sélection. Et puis vous allez affiner. Chaque vin est présenté avec une note sur 20, comme on le fait d'habitude. Une note de rapport qualité-prix aussi, c'est très important. Un accord mets et vins, une présentation écrite, et puis aussi avec des est-ce que c'est un vin frais, sucré, etc. Parce que ça ne fait pas forcément les gens. Voilà, et un budget. On n'est pas un comparateur de prix. Le budget, c'est une fourchette de prix, parce que ça ne nous intéresse pas de dire c'est à 50 centimes moins cher chez un tel ou chez tel autre. C'est,
la fourchette est suffisante, quoi. Allez, on réagit sur les propos de Thierry sur cette appli. David Cobol, vous en pensez quoi?
Je trouve que c'est très utile, c'est très pratique. De plus en plus de gens, malheureusement pour nous qui écrivons encore un peu sur papier, ne lisent le papier. Donc il faut vivre avec son temps et s'adapter. Ouais. Je trouve que c'est un bon exemple. Je suis aussi témoin par personne interposée. Sébastien Durandviel, qui travaille avec moi, a œuvré dans un jury de ce guide et a constaté à tel point c'était sérieusement fait.
On parle de l'appli là. Hein.
De l'appli.
Oui, l'appli que, ouais. On a élargi notre panel de dégustateurs. Ce qui était très sympa. D'ailleurs, on a eu un certain nombre aussi de consommateurs, de journalistes spécialisés, d'horizons un peu plus divers que nos équipes habituelles de dégustateurs. Et on est allé goûter aussi des vins que les experts que nous sommes tous ne goûtent pas toujours, c'est-à-dire les vins les moins chers qu'on trouve dans les rayons de grande distribution.
Ça commence à combien? 2 euros, c'est ça?
Ben écoutez, en ce moment, il y a les foires aux vins d'une chaîne qu'on peut citer qui est Casino. On a découvert un vin portugais à 1,80€, de l'Alentejo,
rouge. Excellent.
14 sur 20, très bon vin, bon vin.
1,80€.
Mais à 1,80€, c'est extraordinaire.
Philippe Hidalgo, vous en pensez quoi? De l'appli en général et ce genre de découverte?
Non, ces applis sont vraiment utiles, puisqu'en fait, ça permet d'avoir en permanence des guides qui sont très lourds et très encombrants dans sa poche à travers son téléphone. Là, c'est une référence, c'est vrai, et surtout pour les foires au vin. Pour avoir été aussi quand même consommateur, hein, etc., on est perdu devant tous ces rayons, etc. Il n'y a jamais personne pour vous aider. Et ben là, on a effectivement la chance d'avoir des conseils...
Avisé.
Que l'on peut personnaliser.
Et en direct quasiment, etc. Philippe Aubrac.
C'est sûr qu'un guide, c'est lourd, c'est encombrant, on n'a pas toujours l'occasion de le voir sous la main. Tout le monde a aujourd'hui son smartphone à proximité.
Bien sûr.
On est dans un rayon, on est un peu perdu. Le sommelier, même pendant la foire au vin, n'est pas disponible parce qu'il y a quelqu'un qui lui raconte sa vie.
Et une ça, jolie fille, on reste longtemps avec la jolie fille.
Ça peut aussi, et ça fonctionne aussi. Eh bien, on a les renseignements, c'est assez pragmatique. On rentre effectivement le millésime, la couleur, le type de vin, l'enseigne, etc. Et on a une idée, en tout cas, un petit conseil qui va faire qu'on pourra faire la différence et choisir.
Et vous, Xavier Cambi, par exemple, en tant que consommateur, vous êtes sensible à l'application de Thierry, de son complice Michel Bétade?
Oui, la première chose, c'est que je crois qu'il y a un changement mondial de comportement vis-à-vis du vin. Le vin est devenu un petit peu comme une belle montre. On achète du vin pour se faire plaisir. On l'achète moins pour consommer. C'est moins devenu un aliment, c'est un moment de partage, de convivialité. Alors tout ce qui peut aider les gens à choisir, en effet, de façon portable, le vin qui va leur correspondre, je trouve que c'est simplement
c'est
génial.
C'est juste topissime, quoi.
Et moi qui achète aussi du vin, peut-être avec d'autres intentions, un peu moins élégantes peut-être, j'ai aussi besoin
toutes les intentions sont louables.
J'avoue que j'aime bien boire du bon vin. C'est intéressant d'avoir vertu sur soi quelque chose qui permet d'orienter ses choix.
Mais bien sûr, quoi.
C'est génial.
Alors, en revanche, Thierry, votre guide, il est toujours papier. Alors c'est bien l'appli, ça c'est in, mais le out, c'est quand même le papier. Là, pourquoi encore un guide papier?
Alors, je tiens à rassurer David. Moi, je ne crois pas du tout à la mort du papier, et j'adore ça. D'ailleurs, on continue le guide. Alors, il va évoluer dans les prochaines années. C'est-à-dire que les guides qui avaient une volonté exhaustive, bon, cette volonté était forcément limitée par le nombre de pages, etc. Dans une appli ou dans le digital. Le rayon est immense, mais aussi les pages, on peut parler de tout. Mais en revanche, je crois aujourd'hui que le papier, à travers un livre ou à travers un magazine, puisqu'on
en Magnum, exactement,
lancer un magazine,
il marche bien.
C'est pour se faire plaisir, c'est un bonheur.
Grand
de
succès,
faire. Les ventes augmentent très régulièrement. Le marché, parce que c'est aussi le marché publicitaire nous a... Alors, pour le coup, plébiscité. Et c'est un vrai plaisir, moi,
et
qui
magazine,
suis,
en
moi
Magnum,
qui
on
suis journaliste. On le trouve en kiosque. Moi qui suis journaliste, je peux vous dire que j'ai pris un plaisir à refaire un magazine extraordinaire. On le fait trimestriel parce que on a beaucoup de choses à faire. Et faire un mensuel, ça devient, là, peut-être la boule au ventre nous gâterait. Donc on reste dans le plaisir.
Merci beaucoup Thierry Dessauve et Bonvent pour ces multiples activités. On parlera du salon une prochaine fois. Gino BFM retrouve Philippe Aubrac, qui a une bonne tête d'Américain. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Donc on l'a vu tout à l'heure, balade à Tahiti, mais juste
balade,
avant.
Balade, mais avant d'aller à Tahiti, finalement, je me suis arrêté en Californie. Ça serait pas mal pour faire une petite escale. Donc j'ai fait route sur San Francisco. Je me suis dit, je vais passer un peu de vacances tranquilles à San Francisco. Mais non, ça n'a pas marché exactement comme ça, finalement. J'ai rencontré Christophe Tassan, qui est un de mes amis sommeliers, meilleur voyer de France, qui travaille dans un très bel établissement qui s'appelle The Battery. Alors, c'est un club, on ne peut pas trop y rentrer, il faut être parrainé, tout ça. Mais il a une cape fantastique. Et en discutant avec lui, je me suis dit, bon, quand même, on va aller visiter le vignoble. C'est des vacances, mais on est à proximité quand même de très beaux endroits, de deux régions viticoles qui deviennent incontournables dans le monde, que l'on compare souvent, que l'on associe parfois, que l'on confond de temps en temps, c'est Napa et Sonoma. Alors j'ai pris mon bâton de maréchal, une voiture bien confortable, et puis nous avons traversé le fameux Golden Gate. D'un côté il faisait chaud, l'autre côté on s'est gelé, parce que franchement,
à San Francisco il
fait froid, et quand on arrive sur le Golden Bridge, de l'autre côté il fait encore plus froid, et on est dans la brume. Donc effectivement, les embruns marins et les nuages venus de l'océan bouchent un peu l'horizon. Mais quand on persiste, il faut persister, et qu'on dépasse les premiers contreforts, on arrive effectivement dans ces vallées viticoles juste extraordinaires, qui font leur réputation aujourd'hui du vignoble américain et californien en particulier. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de Napa Sonoma et on a l'impression d'avoir tout dit. D'abord, c'est ces deux grandes régions, deux grandes vallées, qui sont nord-sud, et qui sont séparées les deux par une chaîne montagneuse qui s'appelle Mayacamas. Et entre les deux, côté Sonoma, on est plutôt côté océan, je vais y revenir, et côté Napa, on est plutôt dans un climat plus continental, nettement plus chaud. Il y a une différence de température entre l'un et l'autre qui peut dépasser plusieurs degrés, voire des fois 10 degrés d'écart dans la même journée, à la même heure. Donc c'est pas négligeable à la fois sur le comportement, sur le ressenti personnel, mais également sans doute sur l'état de la viticulture. Alors on peut aussi s'aventurer ailleurs que entre Napa et Sonoma. Il y a notamment une région qui s'appelle Marin County. On est là pour le coup encore d'une façon très
là,
proche de l'océan. Et quand on se balade là-bas, on arrive, oui, en Écosse. Ouais. Je pense que c'est mélange, c'est très celtique.
Alors, ce mot sur le Loch Ness,
l'Irlande,
vous l'avez trouvé ou pas, alors?
Exactement, mais il y a des
lacs. Entre la Galice et l'Écosse.
Il y a des lacs qui ressemblent effectivement, franchement, à la Bretagne. Et quand on a mangé le soir quelques coquillages et bu un vin blanc frais et tout, en plein été, c'était le mois d'août, et je vous promets qu'il a fallu se couvrir et vous ne pouvez pas manger absolument pas dehors. Alors, qu'est-ce qui fait pour les amateurs de vin la différence entre Napa et Sonoma? Je l'ai dévoilé un petit peu, mais les vins de Sonoma, notamment la partie plus près de l'océan qu'on appelle Sonoma Coast, mais également le centre de Sonoma, que ça soit le secteur de Russian River, ou plus au nord Alexander, et plus au sud Carneros, sont des aires de viticulture agréées américaines qui produisent des vins qui sont quand même des vins avec une assez belle acidité, une certaine fraîcheur, une élégance, dans lequel le pinot noir, par exemple, tient la part belle aux cépages peut-être plus traditionnels qui sont le cabernet sauvignon, bien sûr le merlot, évidemment, voire le zinfandel, que l'on trouve plus de l'autre côté. Donc on a des vins plus élégants, plus racés. J'ai eu l'occasion d'aller me balader notamment dans un des vignobles historiques de cette région, qui est Buena Vista. C'est un des plus anciens vignobles qui aujourd'hui a été restauré par un Français, d'ailleurs, on peut le souligner, Jean-Charles Boissé, le Bourguignon, qui vit une partie non négligeable de sa vie maintenant là-bas en Californie, et qui a rebâti, animé, développé cette winery. Pas encore de vigne, puisque il n'y a pas de vigne associée à la propriété, donc c'est une marque quelque part, mais c'est un lieu aussi de culture, puisque c'est l'endroit où le fameux Gaston Aranci, qui avait été envoyé par le gouverneur des États-Unis en 1852 ou 3 en France, lui qui était originaire de Hongrie, pour ramener en Europe, d'ailleurs plus qu'en France, mais ramener des cépages et redévelopper la viticulture qui avait débuté un petit peu avant, mais qui était quand même balbutiante à cette époque.
Début, quoi. Et pour donc, terminer, Philippe, peut-être quelques vignerons sympas, oui, des wineries à ne pas louper.
Sur Sonoma, Deloche Winery, qui est également une des références en Pinot Noir. De l'autre côté, quand on passe la montagne, on arrive sur Napa. Napa, on est plus chaud, on est plus solaire. Tout le monde connaît Domaine Chandon, Puswan, Mondavi, Arla Estate, Steven Eagle, ça fait etc. des grandes stars, ou Beaulieu Vineyards, à Trémont, qui appartient aussi d'ailleurs à Boissé. C'est juste une winery extraordinaire. Saint-Exupéry, qui est une des très jolies wineries également, qui jouxte d'ailleurs Puswan dans la fameuse banquette de Rutherford en allant entre Oakville et Yountville. C'est des vins plus solaires, plus chauds, plus chaleureux.
Combien ça coûte?
Plus alcooleux. Alors ça, c'est la question qui est intéressante, parce que c'est pas donné. On n'est pas en Suisse, mais c'est pas loin quand même. Ça y ressemble un peu dans les montagnes.
C'est direct.
les vins sont pas donnés. Il faut 20, 30, 40
dollars.
Alors, ça fait 20% de moins, mais c'est pas grand-chose par rapport à l'euro. Et on a souvent des cuvées entre 50 et 60 dollars qui sont intéressantes, mais qui sont déjà à certains prix.
Et ça se vend bien, parce que c'est cher.
Ça se vend très bien. C'est une grande région de no-tourisme. Ça, c'est intéressant de le signaler. Quand vous baladez à San Francisco, il n'y a pas que le cable car, etc. Il y a plein de Uber Wine, alors ils vous amènent, là, vous appelez, etc. De Van Wine, qui avec des petits bus peuvent grouper à la sortie des hôtels, voire des bus carrément, des wine tours qui sont organisés.
Et ça, si vous voulez y aller, on peut organiser ça à Paris depuis.
Oui, exactement. Il y a des agences de voyage spécialisées qui prennent tout en charge. On peut prendre un chauffeur individuel si on le souhaite. Il y a même un train, le Silverado Trail, le chemin, mais il y a aussi le Silverado Train qui permet de visiter. Il s'arrête dans les wineries. Là, c'est absolument marrant. La voie de chemin de fer suit la route. C'est la fameuse California State 29 qui remonte effectivement tout le long de Napa. C'est beau, c'est organisé. Il faut savoir aussi que c'est la deuxième destination touristique de Californie, de si il y a du tourisme en Californie. La première, c'est Disneyland, et la deuxième, c'est Napa Valley. Et il faut avouer que quand on arrive dans certaines wineries, c'est un peu Disneyland aussi.
Ils sont contents de nous voir, ils sont souris,
c'est agréable, ils sont organisés, voilà. Ça vous coûte 10 dollars si vous voulez visiter et goûter de vin, mais ils sont organisés pour ça,
surtout
et
ils sourient
sans d'argent.
Enfin, on sourit pas beaucoup dans les villes françaises.
Et également, quelque chose que je n'avais pas remarqué il y a quelques années, mais la démarche bio notamment et l'approche culturelle gagnent du terrain également en Californie.
Merci beaucoup Philippe Abrac, nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour parler de l'Alsace et du groupe Taïwan.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant bar à vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public, ensoleillée et délocalisée avec le Vino Quiz et le célèbre Philippe Bidalon.
Alors, je vous rappelle le principe. Hein. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Voici la première question de la 13e année d'Invino BFM sur BFM Business. Quel est le nom du magazine de Michel Bétane et Thierry De Sauve? Trois réponses. A. En Magnum. B. Balthazar. C. 750 grammes. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeux.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Philippe. Et si on partait en Alsace, par exemple, vous en pensez quoi?
Alors, oui, je vous emmène en Alsace au sujet du vin et de la religion. Vous savez, on oppose parfois le Bourgogne, qui serait un vin catholique avec sa bouteille tout en rondeur, au Bordeaux, qui lui serait plus protestant, plus raide. Mais pour ma part, donc, c'est en Alsace que je vous emmène. Sans aucun doute, la région de France où la religion a le plus façonné le vignoble. Jusqu'aux écrits de Martin Luther, la culture de la vigne dans la plaine d'Alsace se confond avec la vie monastique qui régit la petite centaine d'abbayes, quand même, disséminée entre les Vosges et la forêt noire. Mais avec l'introduction de la réforme, le développement de la viticulture va devenir une question protestante. C'est que jusqu'en 1648, date de son rattachement à la France, l'Alsace constituait le cellier du Saint-Empire romain germanique, où les thèses de Luther prospéraient. À l'aube du XIXe siècle, les Parpaillots, comme on les appelle à l'époque, écrivent le prologue de l'épopée du négoce du vin alsacien, dont ils sont d'ailleurs toujours les principaux acteurs, avec notamment les familles Hugel, Trimbach ou Dopf, autant de grandes lignées de vignerons dont les étiquettes donnent soif. Ces critiques protestantes encouragent la performance et le commerce, comme vous le savez, que boudent l'Église catholique. Aujourd'hui, les villages viticoles alsaciens, qui comptent parmi les plus beaux de France, sont encore marqués par la confession dominante de leurs habitants. Rigvir, par exemple, reste fidèle à la réforme, quand Eggesheim demeure un bastion papiste. Mais sur cette terre de Concordat, nulle rivalité entre les communautés. À Unavir, par exemple, protestants et catholiques partagent la même église. Comme à Ribeauvillé, où le peuple est catholique, mais les élites luthériennes, depuis que la conversion des comtes de Ribeaupierre à la réforme, au XVIIe siècle. Puisqu'on parle de Ribeauvillé, signalons que dans la cave coopérative locale, l'une des meilleures et les plus anciennes de France, règne une ambiance de convivialité et de gourmandise rare. Partager un repas avec Yves Battenweck, son président vigneron, et l'adorable directrice technique et œnologue de la cave, qui s'appelle Evelyne Donlinger.
Elle vous a plu, elle, hein?
Ah, elle est vraiment sympathique. Est un moment inoubliable. Les spécialités alsaciennes se bousculent sur la table au milieu d'une réjouissante farandole de jolis flacons. Pour dire, la cave qui produit vraiment de très bons vins à prix tout doux a longtemps été la propriétaire de l'auberge voisine. Reste la vraie question qui nous occupe. La confession du vigneron a-t-elle une influence sur le vin qu'il produit? Pour beaucoup, le Riesling, tel que le vinifient les grands vignons protestants alsaciens, est le reflet de leur religion. Droit, sec, austère. Il le pose au très catholique Gewürztraminer, joyeux, opulent, exubérant, baroque. Le Gewürztraminer, c'est le chant des anges, le vin de la contre-réforme. Et le Sylvaner, me direz-vous? Eh bien, il est protestant, lui aussi, car il ne demande pas d'enrichissement à la vigne. C'est l'austère du vignoble. Certains vignerons, donc plutôt protestants, ne croient pas à ce que je viens de dire, comme Étienne Arnaud Dopf, pour qui la religion ne s'affiche pas sur la bouteille. Si Rigvir est une terre de protestantisme, et explique celui dans la famille qu'on a un pasteur, le vin est d'abord lié au terroir, ici assez tardif, propice au Riesling, ce qui permet de faire des produits plus secs, plus droits, avec une belle trame acide. Pour André Hugel, protestant aussi, vouloir associer vin d'Alsace et religion, c'est un peu chercher le sexe des anges. Une question, pour ma part, que je me garderai bien de trancher. Mieux vaut trinquer à l'œcuménisme et se régaler, avec modération bien sûr, d'un des six savoureux grands crus d'Alsace.
Merci beaucoup, finalement, c'est excellent. David Cabot, une petite réaction, vous êtes...
Étant j'applaudis, mais je suis absolument d'accord que la religion n'a rien à voir dans le produit fini. Il y a des bons vivants des deux côtés.
Exactement,
de cette
bons
frontière.
Ça fait quand même partie du coup du paysage alsacien, parce que quand on visite les villages, il y a souvent les deux églises, les deux styles.
Et donc, c'est très beau.
On voit les quartiers, on voit les influences. Ouais. Et ça donne du relief.
Philippe Reynaud, vous, votre avis sur le sexe des anges, par exemple?
C'est justement le fait de trancher le sexe des anges.
Oui, c'est ça. J'étais sûr qu'il allait réagir.
Allez, merci en tout cas. Du BFM accueille maintenant un nouvel invité, Pierre Béraud, qui est directeur du département vin du groupe Taïwan. Bonjour Pierre.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes un enfant des Pyrénées, perdu dans les beaux quartiers parisiens. Racontez-nous le début alors.
Oui, c'est presque un accident mon arrivée dans le vin en fait. Je faisais beaucoup de ski quand j'étais gamin. Mon père m'a dit, ce serait bien que tu te trouves un vrai métier quand même.
Vous êtes d'où exactement?
Non, je viens de Bagnères-de-Bigorre, grande région viticole, bien sûr.
Grand amateur de vin.
Et vous allez skier où à l'époque là?
J'allais skier à la Mongie, parce que mon père a dirigé ce qui était la plus grande station des Pyrénées à l'époque, la Mongie. Ouais. Et donc je skiais beaucoup, je voulais vivre de ça. On vit très mal du ski dans les Pyrénées, on doit en vivre un peu mieux dans les Alpes. Ouais. Et en fait, mon père a décidé de m'envoyer, mes parents plutôt, ont décidé de m'envoyer à l'école hôtelière. On en avait quand même un peu parlé ensemble, pour que j'apprenne le métier de cuisinier.
Un vrai métier, quoi.
Ouais, un vrai métier, quoi.
Mais la première année dans une école hôtelière est un tronc commun. Et là, on découvre le bar, la sommellerie, la pâtisserie, la cuisine. Et en fait, je suis rentré, j'étais interne, et je suis rentré un vendredi soir en disant à mes parents, on ne buvait pas de vin à la maison.
Ah, pas de vin à la maison?
Non, du tout.
Vous aviez un patou dans les Pyrénées ou pas?
On avait pas de patou, mais il y en avait à peu près partout chez les voisins, mais pas qui me croquaient régulièrement d'ailleurs, mais pas chez moi. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Je suis rentré en week-end en leur disant je veux être sommelier, c'est le vin qui me plaît. J'étais toujours passionné de géographie et on était mineurs, on goûtait même assez peu de vin à l'école, mais on apprenait beaucoup sur les cartes. Et ça m'a, j'avais eu l'impression de m'évader avec ça. Et puis c'est parti comme ça. J'ai oublié ma vie dans le ski.
Son père, qui est doré du ski aussi, lui disait, de toute façon, tu es le roi de la descente, tu vas réussir dans le vin, c'est ça?
Voilà, c'était ça.
Vous voyez pas que vous avez eu deux mentors et non des moindres, Jean-Claude Vrina et Alain Sandrin, ça?
Ah oui, c'est vrai. D'abord Alain Sandrin, c'est parce que j'ai commencé au Lucas Carton, à l'époque du Lucas Carton, ici, Place de la Madeleine, avec ses trois étoiles Michelin. Un chef passionné par les vins, bien sûr, passionné par les accords mets et vins, ça m'a jamais laissé depuis. Et puis, j'ai passé une grosse année là-bas. J'étais commis sommelier, j'avais 20 ans. Hein. Et ensuite, dès 1992, ça nous rajeunit pas trop.
Grand millésime.
Grand millésime, oui, en plus. Grand millésime pour moi parce que c'est le millésime de mon entrée au Taïwan. Et c'est là que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans avec Jean-Claude Vrina. Mm-hmm. Un immense restaurateur et un amoureux du vin. Et voilà, j'y suis toujours depuis 25 ans.
Grande émotion, quoi. Alors, le groupe Taïwan aujourd'hui, c'est quoi? Ça donne quoi la réalité? Il y a différentes choses, différentes activités.
Oui, le groupe Taïwan, c'est le restaurant historique qui existe depuis 1946, qui est depuis le début des années 50 rue Lamennais, dans le 8e arrondissement. C'est un peu le porte-drapeau de la maison. Nous avons depuis 87 des caves, une boutique de vin, donc les caves de Taïwan, rue du Faubourg Saint-Honoré. Nous avons aussi deux restaurants très orienté, on appelle ça nous les brasseries œnologiques. Je sais pas si c'est si ça veut dire grand chose, mais c'est un restaurant ce sont deux restaurants à Paris et à Londres qui sont clairement orientés sur les accords mets et vins et qui marchent très bien depuis 2012 à Paris et depuis octobre dernier.
Et ça marche bien à Londres?
Oui, à Londres ça marche bien. On est à Marylebone, donc en plein cœur de Londres. Les Anglais sont des amoureux du vin, ont une grande culture du vin. On est très content de cette ouverture là.
Et aujourd'hui, donc ça accueille combien de personnes, on va dire, par
les deux, Paris et Londres, ont la même capacité, 70 couverts. 60 couverts en salle, une dizaine de couverts au bar pour chacun.
Ça appartient à qui le groupe d'Ivan?
Aux frères Gardinier depuis 2011.
Depuis 2011, hein, ils ont repris donc.
À la famille Vrina, qui était la famille historique.
Et alors vous, en termes d'achat de vin, vous achetez beaucoup de bouteilles par an et vous êtes éclectique de toutes les régions du monde, on peut dire?
Oui, en Taïwan, c'est une grosse cave. Hein. On a 300 000 bouteilles, 6 000 références actuellement. On achète en effet beaucoup. On est quand même très orienté depuis toujours sur les vins français qui représentent 90% de cette sélection-là. Alors, l'offre vin étranger est plus ouverte aux 110, particulièrement à Londres. On sait comment les Anglais sont très ouverts, notamment aux vins de l'hémisphère sud et puis même aux vins hors France qui représentent... La carte représente un tiers de la sélection, la carte des 110 de Londres. Les ventes sont pour le moment un petit peu en dessous de ça. Je pense que notre nom est très porteur aussi de la France, en fait. Mmh. Et des Anglais ou autres qui viennent chez nous à Londres viennent plutôt pour boire aussi des vins français. Mmh. La carte parisienne, quant à elle, est composée à peu près d'un quart de vins étrangers.
Non français, quoi. David Cobol, vous connaissez le 110 de Taïwan?
Oui, d'ailleurs, j'ai souvent parlé à cette antenne avec beaucoup de bien. De ce restaurant. Je trouve que le concept est admirable et le rapport qualité-prix remarquable. On peut découvrir plein de choses. Je voulais juste dire que Taïwan, pour moi, c'est une affaire d'amour et c'est pas simplement parce qu'on a exactement le même âge, c'est-à-dire que tous les deux sont nés en 46. Mais Taïwan a toujours été une référence pour moi. La première grande fête autour du vin que j'ai fait quand je travaillais au Cave de la Madeleine chez Steven Spurrier, on a fait notre repas de fin d'année à Taïwan.
Oui.
Et c'était un moment dont je me souviens encore.
Et quelques années après Philippe Aubrac, Taïwan?
Oui, j'ai beaucoup de souvenirs au Taïwan. C'est un endroit juste magique pour les amateurs de gastronomie, au sens large, et pour les amateurs de vin, c'est un vrai bonheur. Une sorte de magasin de jouets, j'allais dire, dans lequel on vient se faire plaisir et rêver. Et non seulement rêver, mais en plus avec des vins qui ont toujours été accessibles.
C'est parce vrai. Que pour le grand, y compris pour les verres au vin.
Exactement.
Des grands vins accessibles.
Et ça, c'était un peu la philosophie de Jean-Claude Vrina. Et les gardiniers ont gardé cet état d'esprit.
Oui, exactement. Ils ont conservé cet esprit-là. Exactement. On a toujours essayé d'être sage sur nos prix de vente affichés dans les restaurants et à la boutique. c'est plus difficile toujours de conserver des domaines rares. On travaille, on a de la chance historiquement d'avoir des allocations dans les plus grands domaines.
Donc
de
ça
Bourgogne.
C'est important. Ça veut dire qu'on peut pas acheter tous les vins qu'on veut. Il y a certains domaines qui on va dire, c'est on a droit à quelques bouteilles.
Oui, même à l'unité pour certains. Il y a des domaines extrêmement recherchés. On les connaît, nos Rayas, Roujard ou autres grands domaines bourguignons. C'est extrêmement difficile de les vendre sans faire des culbutes énormes pour les protéger et en même temps de pas se faire dévaliser et ainsi de les retrouver sur un marché parallèle ou je ne sais pas où. Ouais, c'est pas facile. C'est plus facile en restaurant puisqu'a priori on connaît la destination finale des vins lorsqu'on ouvre une bouteille dans un restaurant. Au Café Taïwan, c'est plus compliqué de faire ça. Donc on les vend à l'unité, on essaie de les protéger.
Ouais, de faire attention. Philippe Bidalon, vous connaissez la maison Taïwan?
Oui, tout à fait. Oui. Depuis longtemps. C'est aussi c'est toujours le grand service à la française. Ouais. C'est vraiment la table y est effectivement toujours aussi excellente et la carte des vins exceptionnelle.
Et côté business, il y a beaucoup de monde ou pas? Parce que bon, on a vu attentat en conditions difficiles, on va dire, dans la restauration. Est-ce que ça concerne aussi votre brasserie œnologique ou le grand restaurant, le restaurant doublement étoilé?
Alors les 110 semblent pour le moment assez préservés dans le sens où on a un ticket moyen qui est accessible.
C'est combien,
le spectre est un peu plus large, il est à 90 euros lycée midi et soir. Si on a perdu cette clientèle touristique en partie depuis le 13 novembre dernier, notre clientèle parisienne ou française
nous
permet de compenser au 110 de Taïwan. On sent assez peu cette
désaffection.
Exactement. Au restaurant Taïwan, on le sent plus. Si à midi, on a une clientèle à faire, c'est une table d'affaires à déjeuner qui est très très réputée comme étant une table d'affaires. Et bien le soir, on touche là une clientèle touristique très forte. Oui, là, on a une baisse depuis novembre dernier. Clairement.
Et c'est votre chef, Alain Solivares, qui gère l'ensemble de la cuisine des 110 également de Taïwan.
Voilà. Alors, Alain Solivares est le chef des cuisines du groupe Taïwan. Mais c'est Émile Côte qui est le chef des 110 de Paris et de Londres et qui a été un des cuisiniers de Alain Solivares au Taïwan par le passé aussi, et ils travaillent ensemble sur les... Sur
et vous êtes complices tous les deux, hein, ouais. Et réciproquement d'ailleurs. C'est, ouais. Vous discutez beaucoup ensemble, des accords mets-vins?
Oui, beaucoup. Beaucoup avec Émile Côte, beaucoup avec les gardiniers qui sont extrêmement impliqués dans toute la partie culinaire de la
qui
maison.
Qui sont propriétaires d'un excellent château en Bordelais, quoi.
Oui.
L'Enseigneur.
Et des Crayères à Reims. Donc, cette partie gastronomique et culinaire est vraiment... ils sont très importantes pour eux, ils sont très attachés à ça. Donc nos accords mets-vins pour les 110 de Paris et Londres, on les travaille tous ensemble.
Ensemble, quoi.
Une petite équipe.
Et vous vendez beaucoup de champagne ou pas, ou c'est uniquement du vin?
On vend beaucoup de champagne. On vend de toute façon déjà énormément de champagne à l'apéritif, que ce soit à Paris ou à Londres, la coupe de champagne reste quelque chose.
Y compris à Londres, c'est la glace Chardonnay.
Non, on en vend quand même beaucoup.
Je rappelle, Alain, que la Grande-Bretagne reste le principal marché à l'export pour le champagne.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, c'est important. Après, on vend moins de champagne à table, même s'il y a des accords tellement intéressants, mais on en vend un petit peu moins en termes de d'accords mes vins purs.
Un petit peu moins encore. Et pour terminer, Pierre, vos trois derniers coups de cœur côté vin. Attention, ça c'est une question piège. Vous allez vous faire plein d'ennemis, mais c'est pas grave, vous aurez au moins trois potes.
Non, j'en ai un qui vient tout de suite parce que je l'ai goûté à déjeuner là. C'est la Sio de la cuvée de Anne Gros et de Jean-Marc Tolo en Minervois. Oui. Le petit domaine compris, ces deux bourguignons, il y a je crois que 2007 ou 2008 doit être leur premier millésime.
Très beau vin.
Et ils ont différentes cuvées. Donc la Sio de 2012 qui est c'était en 2012 et qui est un magnifique domaine avec toujours jamais d'excès de surmaturité. On voit les bourguignons qui aiment travailler dans la gourmandise et la fraîcheur. Donc un vin tout en équilibre. Premier coup de cœur. Le second, j'ai goûté. Alors c'est pas du tout une nouvelle, mais c'est tellement exceptionnel. J'ai regoûté un Chancaen 2004 de Jackson qui est à mon sens une des plus grandes dernières réussites en Champagne. Ça n'a rien d'une
sur le millésime 2001.
Ah, 2004.
4.
Oui, 2004 qui est resté encore dernièrement le millésime clairement sur le marché. Troisième vin, Marchand Griot, Gevrey-Chambertin, petit domaine de Gevrey-Chambertin que je connaissais pas.
Vous goûtez quand même des choses sympas.
Des 2014, magnifique.
Un
Gevrey village de Marchand Griot.
Merci beaucoup et puis bon vent pour les multiples activités du groupe. Vous avez rien contre les psychiatres et les sexologues?
Non, rien du tout.
Ça tombe bien, on en reçoit un. Philippe Breno, bonjour Philippe.
Oui, bonjour Alain.
Alors si on parlait de San Antonio aujourd'hui par exemple.
Oui, alors c'est pas très psychiatrique ni sexologique, un petit peu quand même, on va le voir. Hein. San Antonio, on l'avait laissé, puisque j'avais fait une petite chronique sur San Antonio et le vin, c'était au mois de juin. On avait laissé San Antonio dans la vinasse, dans le picrate des bistraques. On le retrouve toujours avec Berruyer dans le monde de la haute, qui délaisse pour un temps le piche de Grone pour le champ, le champagne. Le champ, c'est la rouille d'abord, hein, le vin de champagne. Dans Hutte d'Ada, en 77, la langue santoniesque s'éclate, jouant de la rencontre des sonorités et des images portées par les mots. Alors voilà ce qu'il dit. On s'écluse une gorgée de rouille, je sens le frais breuvage frisé sur ma langue comme une petite touffe de poils de cul. L'association d'idées est osée, peu se la permettrait, mais chacun formule à part soi, en toute intériorité, avec les mots les plus crus qui nous sont personnels, eh bien cette façon la plus juste de décrire cette formidable alchimie de la rencontre d'une liqueur magique avec nos papilles sensibles. San Antonio ose les poils du cul, mais il a la délicatesse d'ajouter « petit ». Et en cela, il s'approche certainement très près des sensations les plus intimes qu'un frais breuvage peut susciter sur l'un des organes les plus sensibles de notre corps, la langue. Par proximité phonétique, champagne devient champelure. Plus grivoisement, le champagne, surtout, c'est le roteux. Et logiquement, Alain, une roteuse, c'est une bouteille de champagne.
D'accord, et le Beaujolais, le rhum, le whisky, on en parle aussi ou pas?
Ben oui, parce que Berrurier, pour Berru, le vin au quotidien, c'est le rouquin ou le rouquinos. Que l'on rouquine, hein, l'on rouquine, ça veut dire que l'on boit. Tu écluseras bien un petit coup de rouquinos avec nous, proposa le dodu. C'est encore Berrurier, il a 50 pseudonymes. C'est dans Un éléphant, sa trompe en 68. C'est aussi le jaja dans Déguster les gourmands dans 85. Et San Antonio dévoile les habitudes les plus intimes de l'imbibé, encore Berrurier. Il descendait fréquemment dans son antre sous les prétextes les plus fallacieux, mais en réalité, il allait se cogner des coups de jaja au tonneau. Alors le Beaujolais, c'est évidemment le Beaujol pif, pour ses effets sur le visage. Et puis, ça rappelle une expression très ancienne, je ne sais pas si vous la connaissiez, c'est « à la trogne, on reconnaît l'ivrogne ». Et donc, c'était une expression populaire française, classique, qui se décline en beaujolisé, alcoolique, alcoolisé.
Philippe, quel est le mot de Saint-Antonio pour « avec modération », s'il vous plaît?
Tu l'as peut-être.
Joker.
Joker. Il y a de quoi descendre de vélo pour se regarder pédaler. Berru ne tord pas le nez sur les alcools d'importation. Le rhum, c'est le sirop pour guillotiner. Et le whisky, le sirop d'orge avec un jeu sur le sucre d'orge. Avec le vin se déclinent mille façons de boire. On peut siffler un verre, vider un pot, torcher un alcool. En 54, dans l'un des tout premiers San Antonio, sérénade pour une souris défunte, San nous donne une leçon de dégustation et de jeu sur les mots. Je torche une grande lampée. C'est du chouette. Le whisky, je m'y mettrai rapidement. Je suis plus doué pour les alcools étrangers que sur les langues étrangères.
Bon, alors, ici, nous prêchons toujours, Philippe, la modération. C'est le cas, mais parfois, on peut passer de un verre à deux. Pas plus que deux, quand même. Attention. Hein.
Donc, on va du côté de l'ivresse.
Deux verres, max.
Avec San, on peut se pinter, c'est-à-dire s'enivrer, mais personne pour le dire de façon si poétique. Tu te pintes les naseaux au Chivas spécial en faisant des plaisanteries sur le sida. C'est dans la casse, c'est pas la casse de l'oncle Tom, la casse de l'oncle Tom en 87. C'est enfin l'ivresse, la biture, qui occupe une grande partie de la vie. Et alors, autre qualificatif de Berrurier, l'abominable homme des bistrots. On s'enroule une, c'est être ivre. Dans Voter Berrurier en 64, voici ce qu'il dit. Tout mon petit monde est encore au bistrot quand je reviens. L'ami Morbleu en roule une, qu'il ferait classer monument historique par le ministère des libations et des bouilleurs de crues réunis. San Antonio enfonce le clou. Il s'est réconforté à coups de Beaujolpif, bien sûr. le genre de biture du matin la plus mauvaise. Et il décline la biture à sa façon, en mêlant le réel et le figuré. La biture qu'il trimbalait n'aurait, n'aurait pas tenu dans sa musette. C'est ça, c'est dans un Saint-Antonien qui s'appelle du poulet au menu en 58. Et en guise de conclusion, cette très belle condensation sémantique pour zéro pour la question en 68, il dit je réfléchis à toute biture.
Merci beaucoup.
Allez, relisez Saint-Antonio, ça vaut le coup.
Une vidéo BFM, on retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie de Paris, pour nous parler des vendanges. C'est difficile de redevenir sérieux après David. Hein. La maturité, c'est important la maturité.
Alors, je vais entamer une petite série sur des sujets autour du vendange, parce que c'est l'époque. Donc je crois que c'est bien de creuser quelques préoccupations des vignerons de notre pays, de tout pays d'ailleurs, viticole, au moment des vendanges. Je vais parler de la maturité. C'est presque une question d'ordre philosophique, parce que qu'est-ce que la maturité ? On va parler de la maturité pour l'être humain, j'y reviendrai peut-être, mais la maturité pour le raisin, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il faut se poser la question, est-ce que tous les raisins arrivent à maturité en même temps ? Et la réponse, bien évidemment, est non, puisque chaque variété de vigne a son propre cycle de maturation, de vie végétale et de vie fruticole. Et dans une région donnée, si on a par exemple trois cépages différents sur sa propriété, c'est rare que ces trois cépages arrivent à maturité en même temps. Donc il y a déjà le cycle de la vigne lié au climat et à la météo qu'il fait. Alors à supposer que la météo soit raisonnablement chaude, mais pas trop sèche, on va avoir une maturité à un certain moment. Mais cette année, par exemple, il illustre bien le propos du problème de l'absence de pluie à des moments critiques. Quand il fait trop sec, il n'y a plus de montée de sève, la vigne se rétrécit, elle se met en ralenti, et du coup, la maturité est bloquée. Donc, paradoxalement, dans une année très chaude, on va devoir vendanger certains raisins plus tard que dans une année dite normale. Alors, si on regarde le raisin, sur le plan de l'analyse du raisin, il y a différents types de maturité. D'abord, la maturité physiologique. C'est la capacité des pépins à être prêts à germer, tout simplement. Donc ça arrive très très tôt, juste après la véraison. La véraison, c'est lorsque le raisin change de couleur. Le vert devient jaune ou devient rouge. Si on vendangeait à ce stade-là, ce serait imbuvable. On aura un taux d'acidité absolument gigantesque. Ensuite, vous avez la maturité phénologique. C'est lorsque la vigne a complété son cycle végétatif, qui dure 40 à 50 jours après la véraison ou 100 jours après la floraison, c'est selon. Et là, vous avez une maturité théorique, je dirais. La maturité technologique, c'est lorsque vous avez un taux de sucre suffisant pour dégager 13, 14 ou 15 degrés d'alcool après fermentation, avec une acidité X, une valeur limite d'acidité. La maturité aromatique, quand vous avez la meilleure concentration possible ou souhaitée en arôme issu du cépage variétaux, sans perturbation par des arômes déplaisants, c'est-à-dire le poivron vert qui caractérise le Cabernet Sauvignon immature, pas tout à fait mature. Après, polyphénolique, la maturité, ça devient compliqué, hein, la maturité polyphénolique, c'est quand tout arrive en même temps. Vous avez la maturité de la pellicule, c'est-à-dire les tanins et les éléments colorants pour le raisin rouge, les anthocyanes, la maturité des pépins, ce qui va donner une concentration optimal en tanin qualitatif, c'est-à-dire pas agressif, rond, intégré dans le fruit. Et enfin, la maturité dite œnologique, quand tout arrive en même temps, et c'est ce que le vigneron doit choisir, c'est-à-dire qu'il va faire un compromis entre trop de maturité, pas assez, et la maturité de telle et telle partie du raisin. C'est très compliqué. Et un raisin mûr par rapport à un raisin pas mûr, c'est une vision quelque part de l'esprit. Il faut aussi rajouter qu'interviennent des facteurs du marché. Il y a des marchés qui aiment des vins dits en surmaturité. C'était très à la mode il y a quelques années, rendu célèbre par un célèbre monsieur qui avait un nom de joueur de saxophone décédé. Il aimait beaucoup les vins en surmaturité. Après, il en est revenu un peu. Donc on peut classer la maturité du jus, la maturité de la peau et la maturité des pépins. Et pour des rares cas de vinification en grappe entière, je pense à la Champagne ou au Beaujolais, là, vous avez aussi la maturité des rafles et aussi quelques bourgognes qui sont vinifiées sans égrappage, c'est-à-dire que vous avez la rafle à prendre en considération. Et la rafle, c'est la partie ligneuse, c'est-à-dire la partie qui est la plus dure à rendre à maturité. Et ça, c'est très, très délicat, ces compromis. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans le calcul de la maturité. Et c'est un peu comme pour un être humain. Qu'est-ce que la maturité ? Question impossible à répondre.
Oh là là, monsieur le psychiatre, Philippe, vous en pensez quoi, la maturité?
Bah alors moi je suis très impressionné pour un cap personnel, cher David.
Vous êtes mature, vous, ou pas, par exemple?
Bah, c'est-à-dire, je parle de ma vigne. Il se trouve que j'ai un pied de bergeracois auquel je tiens beaucoup, à Paris, sur ma terrasse, qui a exactement mon âge. C'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Et ce pied de bergeracois, je viens de comprendre, cher David, que la véraison est faite. Oui. Je pense qu'il n'est pas à maturité. Peut-être que je vais devoir faire une vendange tardive.
Tandis que vous... Est-ce que vous avez croqué la peau?
Ouais, actuellement, c'est encore un peu dur.
C'est un peu dur.
C'est le climat de Paris.
Pourtant, exposer plein nord à Paris, ça doit marcher, quoi.
Il est est, là.
Il est est,
ah oui, attention.
Est, qu'est-ce qu'on peut conseiller, là? C'est pas facile, ça.
Non, j'ai pas trop de solutions, là.
Ouais, bon. Directement, quoi.
Mais c'est réellement très compliqué. Et parfois, on arrive à des situations de compromis. C'est-à-dire que les gens vont cueillir une partie de la raisin un peu avant maturité pour garder de la fraîcheur, l'acidité, une partie à maturité phénologique complète et une partie en surmaturité pour avoir beaucoup de sucre. Et ensuite, on va jouer sur l'assemblage. C'est parfois un choix, ça.
Philippe Orbach ?
Finalement, il y a ce qu'on appelle, pour appeler la maturité voulue et puis la maturité subie.
Oui.
Celle subie, c'est effectivement le temps qui est là, la pression des maladies, de la pluie, etc. Ou voire de la sécheresse aussi, qui fait qu'à un moment donné, il faut bien récolter. Et puis la maturité voulue, elle est effectivement un peu tendance. Et David l'a bien expliqué, il y a des moments où on n'utilisait que la courbe de sucre et d'acidité, puis quand ça se croisait, ça commençait à descendre, on perdait trop d'acidité, on disait il faut vendanger. Aujourd'hui, effectivement, on goûte les raisins, on analyse les peaux, les pépins, les rafles, etc., l'ensemble des éléments pour obtenir ce que David a exprimé sous le terme de maturité œnologique, c'est-à-dire que tout soit parfait. Mm-hmm. Mais c'est pas évident. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a dans pas mal d'endroits plusieurs cépages, c'est pour justement chercher cet équilibre, pas être obligé de ramasser tout en même temps. Et ce qui est surprenant, et la nature nous dompte souvent plus qu'on essaie de la guider un peu, c'est que des fois, par exemple, dans le Bordelais, les merlots qui ont réputation de vieillir, d'être matures plus vite, eh bien, ce sont des fois ramassés après certains cabernets.
Ouais, c'est ça.
Parce que certaines
et
années,
ça vigneron décide, Philippe.
Hein. Et donc, il faut être sur le terrain, goûter. Rien ne remplace finalement le jugement du palais. Okay. Effectivement, et David a raison.
Est-ce que le vigneron
répond à Philippe, goûter la peau.
Et est-ce que le vigneron peut manipuler un peu, alors pas la météo, mais qu'est-ce qu'il peut manipuler pour justement arriver à la
maturité? Il faut parler gentiment à ses.
Il y a deux manipulations majeures qui sont autorisées. La chapelisation, c'est le rajout de sucre, c'est le cas de sous-maturité. Ou bien l'acidification dans le cas de surmaturité pour équilibrer l'acidité.
Pour terminer, Philippe Hidalon, dans l'Express, actuellement en kiosque, la semaine prochaine d'ailleurs, on va trouver le spécial foire au vin, ça marche toujours bien ça?
Ah bah écoutez, oui, ça reste. Ça tient presque dans la poche. Hein,
donc, ça se plie. Petite référence au début de l'émission quand on a parlé des guides. Quoi.
Et on a fait une sélection sans doute un peu plus serrée que les autres années, mais avec des coups de cœur.
Mais combien de vins? Il y en a un paquet là. Hein,
Là, il doit y avoir à peu près. 320 sélectionnés.
Et l'ensemble des enseignes sont...
Alors l'ensemble des enseignes, l'ensemble des ventes de vin par Internet.
Et les cavistes aussi.
Et des grands cavistes.
C'est un gros boulot, ça.
C'est un énorme boulot.
Ouais, et l'Express a été leader, enfin, d'ailleurs, pionnier quasiment là-dedans, avec le point, on va dire.
Oui, voilà.
Ouais, quasiment
à César, c'est à César. Oui, absolument. Disons que nous sommes leaders, enfin, en tout cas pionniers. Ouais.
Pionniers, quoi. David Cobold, ça marche aussi bien les foires au vin en ce moment?
Ça marche très bien. Nous, on a œuvré pour le magazine Régal dans les foires au vin. On a fait une sélection aussi à un pit web. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Sébastien Durand-Vial qui s'est tapé.
Et vous, Philippe, toujours Capital?
Toujours Capital et Management, puisque c'est le même groupe. Une très jolie sélection, à mon avis, cette année, de belles enseignes avec vraiment de jolis coups de cœur.
Bon, et vous, Pierre, il n'y a pas de foire au vin chez Taïwan?
Chez Taïwan, il y en a même deux par an. Nos bacchanales historiques au mois de mars et en septembre, maintenant, on les fera du 10 au 24 septembre. Une sélection d'une centaine de vins.
Excellent, rapport des prix, quoi.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous. Fin de ce numéro 609 d'Invino BFM. Merci. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite au week-end sur BFM Business et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.